Ladies and gentlemen, bienvenue dans le podcast Les Brutes Acquises. Nous sommes le 8 mai, il est 14h55 et aujourd'hui on va parler de Google. On va parler de ce qui était intéressant dans le bilan financier du trimestre Q1 pour les annonceurs. Et donc je suis toujours Théo, donc le CEO de Koudak. Et dans le podcast Les Brutes Acquises, on vous donne tout ce dont vous avez besoin pour acquérir des clients en ligne. J'ai déjà bugué sur la tagline alors qu'elle est toute nouvelle. Voilà, mais elle était. J'aurais voulu terminer en disant elle est très simple, vous l'avez comprise. Et je le ferai la prochaine fois sans bégayer. Donc bref, je vais vous faire une petite update, épisode assez court, encore une fois. Il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. Le but, c'est pas de comprendre financièrement où est-ce que Google gagne de l'argent, c'est de comprendre quel est l'impact de ce qui a été dit dans ce call imblairable qui dure une heure sur nous autres, les agences et les annonceurs. Donc, en gros, il faut comprendre d'abord, j'ai plusieurs choses dont j'ai envie de vous parler, on va parler de YouTube et du search, mais il faut comprendre que Google, de manière générale, ils gagnent le gros de leur argent avec trois gros bises. Il y a le search, YouTube et le cloud. Mais bon, en tant qu'annonceur, le cloud, on s'en fout un peu. Vous savez, c'est Google Workspace et tout ce qui est connexe autour de ça. Bon, c'est un gros, gros business. Il y a énormément d'autres lignes de revenus chez Google, mais ce sont les principales, celles qui font la part et tout. Donc le call est très intéressant. Et, je ne sais pas si vous avez déjà écouté un call d'earnings, mais c'est cool parce qu'en fait, il y a des personnes qui se succèdent dans le call. Ce n'est pas le CEO qui fait tout le call. Il y avait Sundar Pichai, il y avait le CBO qui s'appelle, je crois, Philippe Schindler. J'ai une petite citation de lui après. Et ensuite, il y avait la CFO. Donc en gros, souvent, moi, je skip toute la partie résultats financiers où je l'écoute en x2 parce que c'est surtout les parties d'avant qui sont intéressantes. Donc si jamais vous voulez écouter le call de Google, écoutez juste la partie de Philippe Schindler, donc, qui arrive, je crois, après, à bout de 15 minutes. C'est lui qui parle en fait des lignes de revenus, où est-ce qu'ils investissent, qu'est-ce qu'ils développent comme fonctionnalité. Donc bref, j'ai deux choses à vous partager qui sont intéressantes pour nous. La première chose, c'est YouTube. Donc YouTube, c'est le segment qui est en plus forte croissance en fait dans les revenus publicitaires de Google. Donc c'est 20,9% la croissance exacte du revenu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient principalement de deux choses. C'est pas uniquement de la publicité. Il y a aussi les abonnements. Donc il y a genre YouTube Music et YouTube TV, qui est très gros aux US. Et donc la question maintenant qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ça marche? Donc en fait, ils sont en train de tabler sur deux choses, YouTube. La première, c'est évidemment les shorts, où la bataille maintenant, les acteurs sont bien installés sur la bataille du contenu vertical. Donc il n'y a plus vraiment de ruée vers l'or. Donc le but maintenant, c'est de garder l'attention et surtout de faire passer des utilisateurs YouTube sur ce format-là. Donc leur enjeu, c'est que les créateurs YouTube, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'attention, utilisent le format short. Donc c'est pour ça qu'ils donnent un chiffre qui répond un peu à cette problématique, mais dit pas forcément si les shorts sont plus consommés. Donc ils disent que le nombre de chaînes qui publient des shorts a augmenté de 50%. Bon bah c'est bien, mais ça dit pas si les shorts sont... Enfin, ils ne parlent pas du fait que les shorts soient plus regardés ou pas. Ils sont d'ailleurs assez flous aussi sur la monétisation là-dessus. Au lieu de donner des chiffres précis, parce qu'ils ne sont pas présents dans le bilan, tu ne peux pas savoir en fait quel produit rapporte quel argent, quel format publicitaire rapporte quel argent. Ils te le comparent au in-stream, donc les ads un peu plus classiques sur YouTube, où ils disent que le taux de monétisation des shorts par rapport au in-stream a plus que doublé au cours des 12 derniers mois, y compris une amélioration séquentielle, c'est des vrais mots, de 10 points au cours du seul premier trimestre. Bon, tout ça pour dire qu'on ne sait pas trop si ça marche pour les annonceurs. Aujourd'hui, c'est pas un format qui est super plébiscité, mais je le vois nous-mêmes chez Koudak. Voilà, c'est pas en fait quand tu dépenses un budget sur YouTube, c'est rare que la majeure partie soit diffusée en short. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Le second enjeu, pourquoi est-ce que YouTube progresse? C'est parce qu'ils ont un gros enjeu autour de la TV. Donc vous savez, YouTube est consommable sur la télé. Alors c'est YouTube qui est consommable sur la TV et il y a aussi l'offre YouTube Télé qui permet d'accéder à des chaînes. C'est un enjeu qui est hyper stratégique pour Google, et donc derrière pour nous, les annonceurs. C'est que s'ils arrivent en fait à voler du trafic à la TV linéaire, et c'est comme ça qu'ils le présentent dans le call, hein, d'ailleurs, c'est très marrant, eh bien, ils arrivent à voler toutes les enveloppes publicitaires. Et vous savez quand toi, tu es une régie publicitaire, les plus grosses enveloppes, aujourd'hui, elles sont diffusées sur les médias classiques, donc presse, radio, TV, etc. Donc ça, c'est parce que c'est des médias qui sont très anciens, et que les directeurs marketing sont très habitués à dépenser là-dessus. Et aussi, ce sont des médias qui sont très excluants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles à n'importe quelle startup qui se lance. Il y a un ticket d'entrée, et ils adorent ça. Donc du coup, c'est tout leur enjeu, en fait, c'est de réussir à faire en sorte que YouTube soit consommé sur la télé. Parce que voilà, ça vole de l'attention aux chaînes classiques. Et si les chaînes n'ont plus d'attention, bah, en fait, le but, c'est de créer la confusion chez un directeur marketing en disant « Mon budget de télé, bon, bah, c'est TF1, M6, et c'est YouTube. » Voilà, donc peut-être que ça va marcher. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 1 milliard d'heures par jour de contenus qui sont consommés sur YouTube Télé. C'est pas mal. Voilà, donc YouTube, très intéressant. Ce format-là, c'est celui qui est le plus en croissance. Et, je parle de revenu, hein, c'est pas d'engagement. Donc c'est le revenu, quand je vous dis 20,9%, c'est le revenu qui a augmenté. Et donc, si vous, en fait, prenez un raccourci, quand vous voyez le revenu qui augmente, ça veut dire que les annonceurs donnent plus d'argent simplement à la plateforme, même si là, on n'a pas la répartition. Ou alors, je ne suis pas allé la regarder, j'avoue, je suis honnête, entre les abonnements et la publicité. Je ne sais pas si elle est accessible dans le bilan, mais bon, je ne suis pas sûr que ce niveau de finesse soit très intéressant pour nous. La partie la plus intéressante du bilan, c'est sur le search. Donc, le search, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méta autour de ce format-là, c'est que, vous savez, on dit qu'un marché, il est bullish quand tout le monde pense qu'il va monter. On dit qu'il est bearish pour un ours quand il pense qu'il va descendre. Donc, je pense que le search, c'est le format publicitaire aujourd'hui, parmi tous les formats disponibles, sur lequel le marché et les annonceurs sont le plus bearish, bah, principalement pour, à cause de ChatGPT, hein, c'est officiel, puisque si en fait, vous voyez que le modèle publicitaire de Google, il repose sur le fait d'avoir des requêtes qui sont faites. Et donc, si ChatGPT vient manger des requêtes à Google, eh bien, ça fait de moins en moins d'inventaire publicitaire que Google peut donner, à ses annonceurs. Pardon. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se passe totalement l'inverse. Le search n'est pas du tout mort. Et en fait, donc, il fait 14,4% de croissance year-on-year, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de le comparer aux autres. Donc, si on compare year-on-year, par rapport à YouTube, c'est 20,9%, on disait, donc ça grossit moins vite. Par rapport à la famille d'app Meta, donc, ils font 26,8% de croissance year-on-year, donc c'est beaucoup plus gros. Mais c'est pas juste comme ça qu'on juge si un format continue à être, est sur une tendance décliniste. Parce que si on prend sur 3 ans, là pour le coup, et ben c'est le search qui grossit le plus vite. Donc la moyenne sur 3 ans de la famille d'app Meta, c'est 11,9% de croissance, donc annualisée. YouTube Ads, c'est 10,4% et le search est 13,1%. Donc en gros, c'est un format qui n'a pas à rougir face aux autres. Donc faut pas croire quand quelqu'un vous dit le search c'est mort, voilà, le search a encore de beaux jours devant lui. Donc maintenant, il faut comprendre que tous les sujets autour du search, ils sont connectés, et à juste titre, à l'IA. Parce qu'en fait, ça a des impacts partout, autant sur la partie user que la partie annonceur. Donc la première chose, c'est de comprendre quel est l'impact de l'IA dans les campagnes, donc pour nous. C'est très difficile de distinguer le bullshit, d'avoir un impact concret, parce que tout ça, en fait, les algorithmes publicitaires sont évidemment très opaques. Donc on sait pas quel... Enfin, c'est très dur de relier une amélioration ou un investissement dans de l'infrastructure IA à des améliorations de campagne précises. Ils balancent toujours des chiffres, ils sont toujours un peu bullshit, on ne sait pas trop sur quel échantillon ils se basent. Vous savez, ils disent les annonceurs qui utilisent telle fonctionnalité obtiennent en moyenne 6% ou 10%, je ne sais pas, de conversion supplémentaire, tu ne sais pas quel échantillon ils ont pris. Donc, bref. Et en fait, tu sens qu'ils le mettent juste parce qu'il faut un exemple pour illustrer l'idée, parce que sinon les gens vont poser la question. Avez-vous un exemple? Parce que c'est très marrant d'ailleurs aussi si vous écoutez les... Enfin, moi je trouve ça marrant, peut-être que vous en foutez, mais dans les calls d'earnings, en fait, à la fin, il y a des questions. Et les questions, c'est les investisseurs, en fait. Donc, il y a genre Morgan Stanley, Goldman Sachs et tout, ils posent des bonnes questions. Et donc voilà, s'il y a une imprécision dans le pitch, eh bien, il y a des gens pour mettre le doigt dans les trous, quoi. Ils ont toujours, alors, je crois, une question chacun, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est la partie souvent la plus intéressante du call. Donc, écoutez, la partie du CBO, là, Philip Schindler, et la partie à la toute fin avec les questions. Donc, petite citation de Philip Schindler que je vais vous lire, bon, avec... évidemment, le corporatisme dont il fait preuve, parce qu'il va s'exprimer voilà, de façon très cordiale, mais je vais quand même vous la lire, elle est intéressante. Donc il dit, tout d'abord, il convient de répéter que l'innovation en matière d'IA dans notre écosystème publicitaire est au cœur de chaque aspect de notre portefeuille de produits, qu'il s'agisse du ciblage, des enchères, de la création, de la mesure ou des différents types de campagnes. Nous avons parlé de la façon dont les solutions telles que le smart bidding utilisent l'IA pour prédire les conversions publicitaires futures et de la valeur pour aider les entreprises à rester agiles et réactives face aux changements rapides de la demande, et de la façon dont les produits tels que le Broad Match utilisent les LLM, donc Large Language Models, pour faire correspondre les publicités à des recherches pertinentes et aider les annonceurs à répondre à ce que des millions de personnes recherchent. Donc elle est un peu longue la phrase, mais vous, en fait, l'idée qui est intéressante derrière, c'est que la recherche en IA pour Google, elle n'est pas juste applicable au search, bon, on s'en fout parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la pub, mais c'est pour ça qu'ils investissent aussi lourd, c'est parce que derrière, en fait, ils peuvent le rentabiliser dans le cloud. En fait, c'est au cœur de tout. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup. Et tous leurs autres produits. Hein. Il y a beaucoup de produits hein, chez Google, mais je fais une simplification volontaire. Mais c'est au cœur de quasiment tout. Donc, il s'agit là d'un élément fondamental. À mesure que les progrès s'accélèrent dans nos modèles d'IA sous-jacents, notre capacité à aider les entreprises à trouver des utilisateurs à la vitesse et à l'échelle. Donc, c'est une traduction française, hein, d'ailleurs, tout ça. Hein, c'est par DeepL. Donc, vous comprenez qu'ils disent velocity and scale, ce qui est traduit par vitesse et à l'échelle. Beaucoup moins stylé. Et à générer un retour sur investissement ne cesse de s'améliorer. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les portes que la GenAI ouvre aux capacités créatives en aidant à concrétiser l'idée d'adresser la bonne publicité au bon utilisateur au bon moment. Bref, donc ça c'est la citation de Philip Schindler, CBO at Google. Alphabet, exactement. Maintenant, le point qui est intéressant, c'est qu'ils parlent de Gemini. Donc Gemini, c'est l'IA de Google, si on simplifie. Et ils disent que... alors, Gemini est déjà arrivé en fait dans les performances max. Donc Gemini, c'est un truc qui va permettre en fait, voilà, aux annonceurs qui n'ont pas les assets nécessaires pour lancer une PMax, donc une campagne performance max, de pouvoir en lancer plus facilement. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils créent de l'adoption sur des produits publicitaires, c'est en permettant à tous les gens qui ont des merdes pour lancer la campagne de le faire. Donc en gros, c'est à la fois utile pour les gens qui veulent en lancer et pour les gens qui pour l'optimisation derrière des campagnes qui tournent. Donc aujourd'hui, Gemini est dans les PMax aux US et dans quelques zones anglophones. C'est les seules raisons, enfin les seules choses qu'ils déclarent. Donc c'est pas encore chez nous en Europe malheureusement, mais ça risque d'arriver. Et ça, c'est le truc qui risque d'être sympathique quand ça va arriver. Mais ils sont en train de le tester. Donc normalement, voilà, Gemini va arriver assez tôt, mais vous savez, ça arrive toujours à la fin en Europe parce qu'on a de la régulation de mort. C'est toujours pour ça. Ils ont très peur de se lancer, ils ont plein d'autres sujets. Donc ils n'ont pas envie de se rajouter des épines dans le pied. Donc c'est la première chose. L'IA pour les campagnes, c'est ça que ça apporte. Ensuite, il faut bien comprendre que le sujet IA aujourd'hui, en fait, il est un peu distant aujourd'hui du sujet publicitaire parce que la bataille, elle se joue encore quelques niveaux plus haut. Et c'est intéressant parce qu'au début du call, Sundar Pichai, il annonce les six sujets qu'il va traiter et en fait, il les met dans l'ordre quasiment d'importance. Il dit qu'il veut traiter six choses. D'abord, il veut traiter le leadership en matière de recherche, donc il ne parle que d'IA là. Ensuite, le leadership en matière d'infrastructure. Troisièmement, l'innovation et le search. Donc le search, c'est le produit search de Google. Ensuite, il dit 4, notre empreinte mondiale en matière de produits. 5, la rapidité d'exécution. Et 6, les voies de monétisation. Donc en gros, aujourd'hui, la bataille, elle se joue sur le leadership en matière de recherche et le leadership en matière d'infrastructure. Et ensuite seulement, ils pourront penser à comment est-ce qu'ils l'intègrent bien dans les produits et comment est-ce qu'ils le monétisent. Donc en fait, toutes les étapes qui viennent derrière. Donc il faut bien comprendre qu'il ne faut pas attendre trop d'améliorations court-termistes de ces produits, parce que la bataille, elle n'est pas gagnée plus haut. Et en fait, aujourd'hui, ils font des tests à toutes ces étapes-là, mais ce n'est pas la prio. Donc, notamment, le test principal, c'est la SGE, là, donc la Search Generative Experience, qui n'est toujours pas disponible en Europe, hein, d'ailleurs. Donc, il vous faut un petit VPN si jamais vous voulez aller apprendre. Et donc, ils essaient d'abord, en fait, donc vous voyez, ce sont les résultats en fait, générés par IA qui viennent se plugger là, juste tout en haut de la recherche quand tu poses une question, et qui vont en fait proposer des éléments de réponse avant les sites internet que tu pourrais envoyer Google. Et donc avant aussi, point très important, les annonceurs qui payent de la pub pour être présents sur ces queries. Donc en gros, la première chose qu'ils essaient de valider là-dessus, sur la search, sur la SGE, c'est qu'ils essaient d'abord de valider que ça améliore l'expérience des utilisateurs. Donc évidemment, dans le call, ils déclarent que c'est le cas. Nous avons des utilisateurs qui nous disent qu'ils adorent les résultats de la SGE. Et voilà, ça m'étonnerait qu'ils soient capables de dire l'inverse dans tous les cas. Donc ça, il ne faut pas forcément en tirer grande importance. Mais en tout cas, ils font des tests là-dessus et ils le mesurent. Et ensuite, le vrai intérêt pour eux de la SGE, c'est que ça va leur permettre d'aller, ils disent, capter des nouvelles requêtes. Donc, on peut le lire comme proposer des réponses à des requêtes auxquelles Google Search répond mal de manière générale. Mais moi, je le lis plutôt en mode aller choper des requêtes enfin, que les gens vont chercher sur ChatGPT, quoi, ou alors dans les autres modèles IA, quoi. Donc, tout ça pose évidemment un gros point d'interrogation sur la monétisation. Et la monétisation, pourquoi c'est important? C'est parce que nous, déjà, on dépense de l'argent en search. Et donc, la SGE, ça prend la place en fait d'annonceur et ensuite derrière tous ces résultats, enfin on a envie de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à monétiser ce truc là parce que ça nous fera de l'inventaire publicitaire en plus, et toutes ces requêtes là si elles passent par la SGE, on a quand même envie de qu'on puisse in fine ramener ça sur nos sites internet quand c'est pertinent. Voilà. Et donc le problème en fait aujourd'hui, c'est qu'ils en sont pas du tout là. Ils bottent d'ailleurs beaucoup en touche, hein, quand ça parle de monétisation. Globalement, ils te demandent d'y croire, et la citation elle est marrante, hein. Je vais vous la chercher, c'est Sundar Pichai qui dit: les gens se demandent s'il serait coûteux de répondre. Alors, peut-être que je vous parle du point d'avant. Je suis désolé, c'est un petit peu. J'ai sauté un point parce que je voulais vous parler d'abord du coût des requêtes. Parce qu'en fait, cette citation parle du coût des requêtes. Donc, si ça vous va, je vous en parle dans 20 secondes. J'ai voulu skipper un peu dans ma trame. Donc, en fait, le problème aujourd'hui de l'histoire de monétisation des requêtes générées par l'IA, c'est qu'ils n'en sont pas du tout là, en fait. Parce qu'une réponse à une requête générée par une IA, ça coûte extrêmement cher. Ça s'appelle les coûts d'inférence. Et ça coûte beaucoup plus cher que des requêtes search classiques. Et le problème, c'est que non seulement ça ne rapporte pas d'argent, c'est la seule raison, c'est que ça ne rapporte pas d'argent, contrairement aux search classiques. Et donc, c'est pour ça qu'ils investissent aussi fort dans la recherche et dans l'infrastructure. Donc, en fait, c'est pour ça que tout le monde fait des bisous à Jason Wang là, d'NVIDIA. On a vraiment besoin, en fait, ils ont tous besoin d'eux, parce qu'ils voient que c'est comme ça que les gens vont rechercher sur Internet les informations, mais ils voient que ça leur coûte une burne de donner des réponses. Donc ils ont, avant de chercher à gagner de l'argent dessus, ils cherchent à ce que ça en perde le moins possible. C'est comme ça qu'ils avaient fait sur le search, à la base. Donc, en gros, là, maintenant, je peux vous dire ma citation. Les gens se demandent s'il serait coûteux de répondre à ces demandes. Et nous sommes très confiants. Étonnant, dis donc. Nous pouvons gérer le coût de ces requêtes. Les gens s'inquiètent de la latence. Donc ça, c'est le temps que ça prend de générer une réponse avec les yeux. Je pense que nous sommes à l'aise avec les progrès que nous avons réalisés en matière de latence et d'efficacité. Il y a des questions sur la monétisation. Et d'après les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, je suis convaincu que nous serons en mesure de gérer la transition vers la monétisation. La situation évoluera avec le temps, mais je pense que nous sommes bien positionnés. Et, plus important encore, quand je vois l'innovation qui nous attend et la façon dont les équipes travaillent dur, je suis très enthousiaste quant à l'avenir qui nous attend. Donc, c'est l'équivalent de dire « t'inquiète ». Franchement, t'inquiète, on s'en occupe. Donc, en gros, ils demandent aux investisseurs de le croire, ce qu'ils peuvent faire ou pas. Mais il y a quand même pas mal de questions autour de ce truc-là, mais c'est normal parce que la bataille, je vous le dis, elle n'est pas encore sur gagner de l'argent et faire en sorte que ça en perde le moins et que ça soit utilisé par les gens qui font des requêtes sur Internet. Voilà, donc ça, c'est pour la partie search. Le search n'est pas mort, de manière générale. Si vous devez retenir trois trucs de ce que je viens de vous dire, c'est que YouTube a pour ambition de challenger la TV, le search est encore de beaux jours devant lui, et les enjeux de recherche et en infra autour de l'IA, il faut quand même les suivre de près, parce que ça va avoir un impact direct sur où est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'argent et l'ROI qu'on va en tirer. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus. C'est toujours assez compliqué d'expliquer des trucs... comme ça, qui sont en fait, c'est des datas financières que je vais chercher et qui sont assez dures. Voilà, faut essayer de les vulgariser, de transformer ça en truc utilisable pour les annonceurs. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est en description. Et si vous êtes un annonceur qui dépense plus que 40 000 euros par an en pub digital et vous voulez un gars qui vous explique si vous pourriez faire mieux avec une agence, y compris ses frais, vous pouvez réserver un appel de découverte sur le lien en description. C'était Théo. À plus pour un nouvel épisode des Bruits Acquises.